Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre le temps de vous arrêter? De vous arrêter et d'écouter? D'écouter les bruits de la ville? Les véhicules? Les marteaux-piqueurs? Les fontaines? Les avions? La cacophonie quotidienne? Mais aussi la nature? La nature de la ville? Le vent dans les arbres? Les oiseaux, l'eau, elle regorge de choses à nous dire, à nous transmettre. Alors, fermez les yeux et laissez-vous guider par Manuela Lefort de l'unité renaturation de la direction Nature et Jardin de la ville de Nantes, Abderrahmane Amlaoui, responsable espace vert du secteur centre-ville, mais aussi Gaël De Giorgio, Michael Grant, et Gérald Beaujou, une partie de l'équipe des jardiniers, Marilyn Laplace, Yoni Guimier, Fabrice Bahuot et Jean-Marc Couillot, ainsi qu'Olivier Gann, naturaliste de Bretagne vivante. Ils vont vous aider à l'écouter pour mieux la comprendre ou à la comprendre pour mieux l'écouter. Bienvenue dans les oasis de biodiversité de Nantes. Un podcast de Nantes Métropole.
Il y a un papillon là ?
Ils sont cool. Robert le Diable.
Ah ouais ?
Normalement, c'est ça. Voilà. Les ailes sont très découpées aux extrémités. Ouais. Bon, là, il est même plus joli que sur le dessin.
Des taches jaunes, des taches noires.
Et il doit être tout frais sorti. Ouais, parce que les couleurs sont très vives. Souvent, au bout d'un moment, les couleurs sont un peu.
Beaucoup
moins vivre quand ils ont déjà vécu un petit peu. Où ils ont les ailes abîmées, on va le noter.
Finalement, les oasis, c'est une zone d'eau dans un désert. Donc là, c'est de créer des petits refuges dans un milieu qui peut paraître hostile, qui est le milieu de la ville. Donc des oasis de biodiversité disséminées dans tous les quartiers de la ville. Donc il y en aura 50 à l'horizon 2026. Et qui peuvent prendre la forme de différents types de formations végétales. Ça peut être des petits boisements, ça peut être des haies bocagères, ça peut aussi être des zones humides, des mares, etc., qu'on va réhabiliter ou qu'on va créer parce que l'environnement le permet et permettrait d'accueillir une faune et une flore plus large, quoi. On ramène de la vie, en fait, dans des endroits où il n'y en avait pas ou peu. C'est tout simplement ça, voilà. Donc comment on ramène de la vie ? Bah, tout simplement en ramenant le premier élément de la chaîne alimentaire, qui est toujours le végétal. Donc on commence toujours par revégétaliser pour renaturer. Puisque en ramenant une strate végétale, on va faire revenir les insectes et on va faire revenir les prédateurs des insectes, etc. Donc voilà, les chauves-souris, les petits mammifères, etc. Et la chaîne alimentaire va se mettre en place et va s'équilibrer.
On commence cette visite par le quai Senneret, en plein centre-ville, au bout du cours des 50 otages, près du bateau lavoir.
Il y a encore 100 ans, l'Erdre circulait librement. Elle a été comblée, canalisée pour des besoins commerciaux, des besoins autres. Petit à petit, on a perdu complètement la connexion entre la ville et l'Erdre, qui était un milieu naturel, sauvage, etc. Et notamment ses rives, qui ont une importance biologique très importante.
En bas, l'espace où c'est marqué Rêve Verte, il y avait un espace, espace vert. Très vieillissant, qui posait des gros problèmes d'entretien, de part des déchets, et puis l'usage qui était fait en fait. C'était pas agréable pour les agents pour y travailler parce qu'il y avait beaucoup de dégradations, même de choses encore plus sales quoi. Et du coup, l'idée c'est déjà forcément de travailler cet espace pour réouvrir l'espace et le réaménager avec une idée nouvelle quoi. Et en parallèle, il y a eu le corridor Erdre qui est né du coup, qu'on a fait il y a un an et demi et qu'on a poursuivi cette année avec le quai Senneret. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une continuité végétale.
On fait des bordures pour les massifs. Ce sont des fagots confectionnés avec des branches de platane qui ont été élaguées cet hiver, donc dans la ville de Nantes, par les équipes des lagueurs.
Donc, c'est des massifs qu'on a créés sur pavé, en apportant de la terre, en fait, hein, et puis qu'on a borduré avec des fagots. Et ensuite, on y amène des plantes natives. Il y a une liste de plantes natives qui a été faite pour avoir des plantes adaptées au mieux au milieu, quoi.
Des iris des marais, des lysimaques communes, des salicaires, des angéliques des bois, on a des osmondes royales. Il y a eu déjà beaucoup de plantes d'introduites, plusieurs milliers, hein, 6000 de mémoire. Une grande, grande diversité d'espèces qui vont s'intégrer complètement aux rives de l'Erdre, puisque c'est leur milieu d'origine. Certaines proviennent de prélèvements qu'on a menés en Erdre amont, sur les rives plus sauvages, plutôt vers la Jaunelière, avec l'aide de notre botaniste. Mais certaines aussi proviennent de petites pépinières locales qui sont engagées sous le label végétal local. Parce que c'est important aussi de réintroduire des végétaux locaux qui sont adaptés à la faune locale.
On est tourneau. On entend encore un troglodyte un peu plus loin. Deux colverts. Une corneille. Et la mélange charbonnière. Poule d'eau, on l'a entendu là. Il y avait un petit oiseau qui grimpait là au tronc du platane, et puis je l'ai loupé. Bretagne Vivante, c'est une association de protection de l'environnement qui existe depuis 1958. On a développé un réseau de 135 sites qui sont protégés par l'ensemble de l'association. Sans doute, c'est des sites qui appartiennent à des propriétaires privés ou à des communes ou à l'État ou à d'autres organismes. Et on s'engage, nous, à les suivre, à faire des inventaires sur les espèces, sur les milieux, et puis à les entretenir pour qu'ils soient le plus intéressant pour la biodiversité. Bon, là, le couloir de l'Erdre fait que des espèces peuvent arriver ici jusqu'au centre de Nantes sans trouver trop de perturbations, du moins celles qui volent.
Le héron est devenu familier du Quai Senneret, et d'ailleurs j'en ai vu deux là, il y a quelques mois, donc ça c'était assez nouveau aussi d'en voir deux. Donc il commence à s'adapter au Quai Senneret parce que c'est devenu une source de nourriture intéressante pour eux, quoi.
C'est paradoxal, hein. On aime bien se promener dans la nature, mais on ne l'aime pas trop quand elle vient nous envahir dans notre jardin ou dans notre ville. Donc on est aujourd'hui dans une procédure inverse, j'espère pour la majorité des gens aujourd'hui, mais ce n'est pas encore évident, puisqu'il faut que tout soit propre. Je ne sais pas si on a peur du sauvage, mais en tout cas, il y avait une réticence. Et c'est encore très net dans les jardins. On entretient les jardins au cordeau, alors que voilà, il faut laisser un peu divaguer la nature, les herbes folles.
Bah, les cimetières, avant, tes allées c'était toujours propre. Pourquoi c'était toujours propre? Glyphosate, tu vois. Là maintenant, dans les allées, tu vas au cimetière, t'as plein d'endroits où l'herbe va repousser. Et ça, c'est parce que maintenant, il n'y a plus de glyphosate dedans. N'empêche que par rapport à un cimetière, tu vois, il a fallu le faire entendre aux gens. Parce que les gens, ils étaient habitués à un cimetière propre, donc tout de suite, ils se disaient « Ah bah non, un cimetière, c'est là où reposent les gens, donc ça doit être propre et tout. » Mais sauf qu'il a fallu leur faire comprendre que sans glyphosate, tu peux pas mettre des agents en permanence dans le cimetière à désherber tout ça pour faire plaisir aux gens. En même temps, tu dis « C'est propre, bah peut-être, ça te paraît propre, mais en fait, tu tues. T'as pas de vie, t'as rien. C'est mort, en fait, quoi. » Alors que là, bah, l'herbe qui repousse même au cimetière, tu prends le temps de regarder, je suis sûr que t'as des insectes qui reviennent que t'avais pas auparavant, quoi. Je suis arrivé donc en 2006, tu avais encore le glyphosate par exemple. Et toutes les boules de buis qui étaient un peu partout sur 50 otages. Maintenant, tu as vu, tu as une coulée verte au milieu, tout ça. Côté route, tu as des massifs qui existaient déjà mais qui sont plus grands et c'est des vivaces. Avant, c'était des bisannuels, c'est-à-dire c'était des plantes comme prime vert, pensée, que tu plantais pour la saison et que tu arrachais après. Maintenant, on met beaucoup de vivaces pour limiter tout ce qui est arrosage, tout ça, parce que ça résiste au climat et compagnie. Et on a retiré le glyphosate depuis maintenant bien 10 ans chez nous, peut-être même un peu plus, tu vois. Donc le boulot n'est pas le même non plus. Beaucoup plus de désherbage qu'on ne faisait pas auparavant, mais après c'est notre culture aussi, donc c'est mieux dans le sens pour la nature. Après l'homme, ça c'est autre chose, mais en tout cas ouais, pour la nature c'est beaucoup mieux.
La réflexion qui reste encore, c'est sur les corbeilles, les poubelles, hein, je parle. pour qu'elles se fondent dans le paysage. Parce que pour l'instant, il y a des corbeilles qui sont forcément en nombre assez conséquent, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'usages. Et ça pose problème en termes d'esthétique sur le site. Donc je pense qu'il y a une réflexion qui est en cours, justement, avec les collègues du pôle, pour pouvoir y incorporer des poubelles qui se fondent mieux dans le paysage et qui soient plus adaptées, quoi.
Il y a un enjeu de sensibilisation du public qui est très fort, puisque au Quai Senneret, on a une fréquentation qui est importante. Faire revenir la faune sauvage dans le cœur de ville, c'est aussi un moyen de sensibiliser les citoyens nantais et par là même qu'ils contribuent avec nous à protéger cette nature. Mieux la connaître, c'est mieux la protéger.
Allons maintenant 700 mètres plus bas, le long du tramway, dans les douves du château des Ducs de Bretagne.
Il y a 60 ans, il y avait plus de 500 chauves-souris dans le château. Ils sont revenus faire un inventaire l'année dernière et ils n'en ont pas trouvé une seule.
Non.
Il y a eu des années de non-prise en compte des chauves-souris.
Tout est utilisé, où il y a très peu d'espace qui sont laissés libres pour les chauves-souris comme ça l'était avant.
Ouais. L'objectif, c'est aussi de ramener des insectes. Le château est aussi très sensibilisé maintenant au sujet.
Ils travaillent dessus sur l'éclairage qu'ils doivent renouveler. Ils étaient plus en mode événementiel aussi, mis en valeur avant avec des fresques visuelles, etc.
Ouais.
Là, ils vont changer tout progressivement en essayant de respecter la trame noire un peu plus.
Et il y a tout un carnet de prescriptions qui a été communiqué au château donc, pour les aménagements, les ouvrages et puis la remise en lumière qui est prévue prochainement.
Oui.
Pour ne pas faire les mêmes erreurs que par le passé, même si y a certainement...
On voulait effectivement retravailler toute la gestion du site des douves du château. Donc, hormis la réintroduction de 4000 plantes sur les berges de l'Erdre qui circulent dans les douves, on a aussi retravaillé tout le plan de gestion pour réduire à son minimum la consommation d'eau aussi pour l'arrosage des pelouses, hein, puisque il y a ne serait-ce qu'un an et demi, on n'avait que des gazons sur les douves du château, sur les 6000 m² d'espace vert. Donc là maintenant, on va garder des espaces de plage verte pour permettre au public quand même de s'installer, mais on va laisser aussi croître les prairies autour, puisque les prairies sont des lieux de nourriture intense pour les insectes, vraiment des lieux de vie, et les insectes sont très importants aussi dans la chaîne alimentaire. C'est de par leur raréfaction notamment qu'il y a un déclin de beaucoup d'espèces, donc les réintroduire est fondamental.
Je pense que c'est elle justement qu'on a vue là, tout de suite qui volait.
Oui. Je vais faire rentrer dans la petite boîte.
Ah ouais.
Avant de le relâcher. Chez les libellules, mais chez tous les insectes, là, il y a la tête, le thorax et puis l'abdomen. Donc le corps en trois parties. Et sur l'abdomen, il y a 10 segments qui partent côté tête et qui sont dénommés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, sur le... Tous les segments sont noirs, sauf le huitième qui est bleu.
Bah en même temps, on apprend. Ouais. Parce que moi, avant, j'y connaissais rien. Mais c'est intéressant. Je fais mon petit album en même temps, qu'on arrive à les prendre en photo. Si on arrive.
Et ça permet d'avoir aussi, quand eux, ils viennent, et moi, je ne suis pas là, je ne suis pas là à chaque fois, ils peuvent voir des choses. Donc ça permet d'avoir des données supplémentaires aussi. Ouais, y a des différents, tu vois, pour la même espèce, ça peut varier. Donc ça ne nous aide pas.
Les yeux, je les vois bleus, hein.
Tu vois bleu, toi.
Les yeux, oui.
Les yeux, je les vois bleus.
Parce que le dessus, il est noir.
Après, il y a 89 espèces en France, dont 11 qui sont menacées.
Ouais. Essaie de prendre une photo, si tu arrives. Même si elle n'est pas très belle. Je vais noter les critères après. Même si je ne trouve pas là, aujourd'hui, je trouverai un peu plus tard. J'ai mis le 9e, il était bleu. Le 10e, grande partie bleue. Et puis le 8e et le 7 et 8e segment de l'abdomen sont noirs. Et puis les autres, 6, 5, 4, 3, ils sont avec un dessin noir en pointe. C'était une qu'on n'avait jamais eue encore.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr.
C'est déjà bien.
Mais ouais, c'est intéressant, c'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire ça dans toutes les entreprises privées. Nous, on a le temps de pouvoir faire des projets où on va faire des inventaires, on va aller... Je me souviens, même au début, j'arrivais, il y a 12 ans, on faisait des inventaires sur les papillons, quoi. On raconte ça autour de nous, aux amis, quoi. Mais c'est quoi tes journées? Vous comptez les papillons? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a un véritable enjeu derrière, quoi. Alors nous, effectivement, on compte les papillons. Factuellement, c'est ça. Mais derrière, il y a une étude, on donne ça, c'est étudié, et puis avec ça, ils peuvent faire des... Ouais, voir l'évolution, voir ce qui se passe, quoi. C'est un indicateur, quoi.
Les prairies, on les laisse pousser le plus possible. Et puis, on a l'aide maintenant de deux moutons, donc qui ne seront pas là forcément tout le temps, puisqu'il faut leur donner de quoi se nourrir. Donc, ils viendront faire des petits passages aux douves pour participer à la gestion des espaces. Et une fois qu'ils se seront repus de nos prairies, des prairies riches du château, ils pourront aller paître sur un autre espace, que ce soit vers Saint-Jacques ou d'autres sites du centre-ville.
On peut dire, pour les récupérer là-dedans, on va s'amuser. Hein.
Oh ben non, mais il faudra les mettre vers la goulotte là-bas, quoi.
Ouais, je sais, ouais.
Caramel et nougat.
On n'a pas les deux noirs.
Non, les deux à l'origine qui étaient prévus pour... C'est pas ceux-là qu'on a eu.
Ah d'accord.
Bon, Caramel, elle est gentille, mais alors elle fait des... Enfin, c'est un garçon. C'est un garçon. Ben, il fait des bons.
Ah, c'est un garçon,
ouais. Ah ouais, il a peur, celui-là, bon.
Et Nougat, c'est celui qui... Faut pas lui tourner le dos.
Faut pas lui tourner le dos. Déjà, ce matin, il y en a un qui a failli se faire charger, là.
D'accord. Ça, j'ai compris.
C'est parti.
Lui, je l'ai rappelé Corne Noir, déjà. Ça, c'est original. Et l'autre, je l'ai rappelé Piranha, avec son regard, là. Il m'a fait peur tout à l'heure.
Réintroduire des moutons en éco-pâturage, comme on appelle ça, en fait, ça permet aussi de sensibiliser le public, notamment les enfants, à un changement de gestion, à un changement de regard qu'on doit avoir sur nos paysages. D'introduire l'animal aussi en ville, ça renvoie à une image plus douce aussi, plus de liens aussi entre la nature et la ville. Et on voit bien, les enfants, de toute façon, viennent spontanément, se penchent par-dessus les remparts. Et par le biais des moutons, on sensibilise aussi le public à ce nouveau mode de gestion plus écologique.
Et c'est quoi sur l'oreille, là ?
C'est quoi sur l'oreille ? Ah, c'est une bonne question. C'est un petit badge avec un numéro dessus.
C'est quoi des devises ?
Bah, ça fait un peu comme une boucle d'oreille, t'as vu ? Ben moi j'ai des boucles d'oreilles aussi. Ben, c'est un peu ça. C'est pour savoir quelle chèvre c'est. Quelle chèvre. Je sais pas.
C'est une chèvre, c'est un mouton.
Un mouton.
C'est un mouton. Ce sont des moutons. Depuis tout à l'heure, je suis perdue. C'est une catastrophe.
Ah oui, oui.
Donc c'est des moutons.
C'est très drôle parce qu'on se rend compte finalement que, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de certitude sur ce qu'est un mouton. Tout comme on a pu le vivre aussi sur la plantation du boisement de la rue des Boires, où certains enfants étaient dégoûtés de voir un ver de terre au départ de la session de plantation participative. Et à la fin, ils étaient tous très protecteurs à avoir un ver de terre dans la main, vouloir le remettre dans la terre. Et ça passe par là, en fait, par la manipulation, par la sensibilisation. Mais la sensibilisation, c'est voir, c'est connaître, c'est appréhender soi-même les choses. Pour mieux les protéger et mieux s'en faire le relais.
Ah, c'est bien, ouais, Denis.
Un verre de terre ici.
On en a des verres de terre, les enfants. Regarde, il est là. Mais il se cache.
Je suis capable de faire un bisou au verre de terre.
Un bisou. Tu veux faire un bisou?
Et pour finir, 2 kilomètres plus au sud, nous voilà sur l'île de Nantes, rue des Boires, entre Mangin et Beaulieu.
Même si on était très très costaud, on planterait des tout petits plants, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances de repartir et après de grandir pendant très 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 longtemps. Un arbre, en général, on dit qu'il ne faut pas déraciner un vieil arbre, c'est vrai. Hein. Les arbres, quand ils sont vieux, ils n'aiment pas forcément être plantés, ils vont avoir beaucoup plus de mal à repartir, alors que là, bah, vu la taille des plantes, on est presque sûr qu'elles vont toutes grandir. Alors c'est pour ça que je te rappelle, on en a parlé en classe, est-ce qu'il n'y a que des arbres?
Non,
il y a quoi qui est un peu plus petit que les arbres? Ouais, on avait dit un autre mot.
Les arbustes.
Il y aura des arbustes. Et au pied là, qu'est-ce qu'on a souvent? C'est ces espèces-là qu'on appelle des herbacées. Facile à se rappeler, ça porte le nom de l'herbe. Donc on va avoir toutes les tailles. Hein. Et c'est pour ça que ça va moins déranger. On va pas mettre que des arbres les uns à côté des autres. Parce que je suis d'accord, sinon il va avoir beaucoup de mal à pousser. Ok, vous êtes prêts?
Oui.
Alors là, vous avez devant vous toute l'équipe des jardiniers qui a commencé à planter. Hein, notre fameux boisement dont on a parlé l'autre jour. Vous voyez, il est juste derrière. Alors on le voit à peine, hein, c'est tout petit. Hein. Tu la mets dans ce sens-là et puis tu appuies avec le pied. Tu vois? Et après?
Oh.
Ah bah oui. Et puis tu mets dedans. Et là, il y a quelqu'un qui va peut-être t'aider. Tiens, tu viens l'aider si tu veux.
Oui.
Parce que regarde, viens voir. Tu restes à côté de ta plante.
Oui.
Donc faut bien que la motte, elle soit sous terre. Et en plus, demain, normalement, il pleut. Vas-y, tu remets la terre.
Il pleut demain.
Normalement, il y aura un peu de pluie demain. Ça va être parfait.
Donc là, on se situe très clairement dans un endroit qui est très minéral, donc l'île de Nantes. On se situe entre les deux bras de la Loire qui passent de part et d'autre de l'île. On a choisi de recréer un petit boisement ici, en devenir, hein, j'entends bien sûr. On a travaillé sur un espace qui fait plus de 600 mètres carrés, où on réintroduit tout un cortège floristique. On va pas seulement planter des arbres, on va aussi planter des arbres, des arbustes et des herbacées. Donc les herbacées, c'est les petites plantes qui accompagnent tout ce cortège-là. En réintroduisant ces trois strates végétales, on reconstitue un cortège écologique qui a le plus de chances de devenir équilibré. Et donc, ce boisement, on l'a planté avec l'aide des enfants. On a choisi les plantes pour que ce soit des plantes d'avenir qui seront adaptées au milieu séchant de l'île de Nantes. Et donc, on le plante avec les enfants parce que c'est la génération de l'avenir.
Je pense que c'est intéressant de leur montrer... leur montrer comment on plante, ce que va devenir l'arbre, et puis aussi leur expliquer pourquoi on fait ça. Dans 50 ans, ils seront contents d'avoir de l'oxygène. Et ils diront, j'ai participé.
Là, ici, on a toute une friche industrielle. Et du coup, il y a des projets urbains, de logements, de nouvelles routes et compagnies qui vont s'installer. Et pour préserver cet espace, on a décidé de planter un boisement d'avenir, et qui, du coup, avec les élus, les enfants, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus toucher dans... Enfin, on a au moins 150-200 ans devant nous. On préserve l'espace vert et un espace de biodiversité. Et du coup, on crée aussi des zones de fraîcheur, des îlots de fraîcheur, comme les étés sont de plus en plus chauds. Voilà, on obtient 650 mètres carrés de forêt d'avenir.
Tu prends combien d'arbres là ?
Alors au total, on a 350 arbres, 350 arbustes et 500 graminées et vivaces.
Des pins d'Alep ?
Pins d'Alep, arbousiers. L'érable de Montpellier, du romarin, tout ce qu'on peut trouver sur le sud de la France, dans les massifs. Et du coup, après, toute la matière organique qui a été mise pour la préparation du terrain, c'est de la matière organique qui est issue de nos déchets verts, uniquement. Et le paillage par-dessus, c'est issu de nos déchets verts aussi, uniquement. Donc tout est fait en régie, par l'équipe de jardiniers, forcément.
Et on est revenu en arrière. On a suivi l'évolution, on a même été à l'école. Cette évolution avec les désherbants, produire plus, et on a fait 20 ans en arrière. Donc au début, on était réticents. C'est comme si on dit aux gens que ce soit l'ordinateur ou sur le portable, du jour au lendemain, de revenir à écrire. On a un circuit court. Là, on va tailler cet arbre, on va stocker ça là-bas au confluent. Il y a une machine qui va passer, qui va broyer, et après, on va mélanger avec de la terre, avec un autre substrat qui est un peu plus désagrégé. Et hop, ça, on va le réutiliser après dans nos terrains. Donc ça évite d'acheter du terreau en sac et tout.
Alors le boisement d'avenir, il se base sur plusieurs principes. Donc tout d'abord la réintroduction de jeunes plants. Donc pour leur donner le plus de chances de s'implanter correctement dans le sol dans lequel on l'implante. C'est un boisement où justement on a un équilibre entre ces différentes strates végétales. Comme dans un milieu naturel, on essaye vraiment de rester en mimétisme avec un milieu naturel pour donner le plus de chances à notre boisement de devenir un boisement de demain, dans 80 ou 100 ans, qu'on puisse retrouver cet espace-là dans nos villes.
Comme ils ont vu que le sol c'était plutôt un sol sableux, ils se sont dit on va partir sur un boisement plutôt méditerranéen. Surtout qu'avec les changements climatiques actuels, c'est pas déconnant de se dire tiens on va partir sur des essences qui ont peut-être moins besoin d'eau. Et, vu qu'on parle de boisement d'avenir.
Ouais, c'est l'idée d'avoir moins d'impact, donc pas venir arroser ou avoir vraiment juste au tout début, mais voilà.
Je suis là depuis 10 ans, bah, y a moins de pluie, parce que c'est vraiment la pluie qui nous permet moins d'être dehors. C'est vrai que quand il fait chaud, c'est dur, mais on peut faire en sorte qu'on va plus ou moins long. Quand il fait froid, voilà, on se couvre. Par contre, quand il pleut, déjà, c'est pas grave pour la gens. On peut pas vraiment travailler les sols. Donc, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de moments comme ça où on se pose la question. C'est quand même inquiétant et étonnant. Il n'y a pas d'eau, en fait, très peu d'eau. Donc on arrose de plus en plus tôt. Et de plus en plus tard, il faut le faire, mais ça peut attendre. Là, ça ne peut pas attendre. Si on attend, les arbres qu'on a plantés à l'automne, ils peuvent mourir très vite, en fait. Et puis bah, après, c'est à suivre jusqu'à fin septembre, voire plus, quoi. Et tout se décale. Nous, avant, on pouvait espérer commencer à faire des gazons fin septembre, parce que la terre est encore chaude, mais il fait moins chaud. Il commence à peine à pleuvoir. Là, maintenant, septembre, c'est encore un temps où il fait très, très chaud. Et du coup, ça se décale plus en octobre, les saisons. Ouais, c'est... on constate ouais, une vraie évolution, un vrai changement, ça c'est sûr.
Tu peux le faire avec les mains, hein. C'est plus simple avec les mains. T'as fait ton trou ? Alors, tu vas chercher une plante, vas-y.
Tu veux que je te donne un coup de main, Maëlle ? Ça va pas suffire. Après les autres, ça aurait été assez profond pour les autres, mais pas sûr.
C'est bon, maintenant je fais quoi ?
Là, faut rebouche encore.
Je peux planter ici.
J'adore !
C'est
ce que je fais chaque jour chez moi.
Là, c'est bien, oui.
J'ai fait mon propre jardin de là jusqu'à là.
Oui, ça m'a plu parce que c'est bien pour la nature. C'est
bon pour la santé.
C'est bien comme ça on pourra mieux respirer. Comme ça, on... c'est bien de vivre avec les arbres en fait.
Ça, c'est pour vous remercier.
C'est quoi ?
Ce sont des graines, alors vous voyez, marie en fleurs, c'est-à-dire ce sont des graines sauvages qu'on peut trouver dans la nature. Hein. C'est vraiment que des graines locales. Et donc, ça, vous pourrez les semer. Est-ce que vous êtes content ?
Oui !
Ça vous a plu ?
Oui.
Vous voulez devenir jardinier plus tard ?
Oui.
Oui. Bah, merci à vous.
Et on se rend compte qu'on est quand même dans un métier. Et au jour le jour, en fait, on fait des choses qui sont intéressantes et il y a un vrai impact, en fait. Alors, c'est peut-être très peu, on plante des arbres, on peut penser que c'est rien, mais en fait, on participe à essayer de freiner ce problème de réchauffement et de l'urbanisation à outrance, tout ça. Donc on participe à quelque chose qui est valorisant, quoi.
Dans toutes les équipes, on appelle ça des micro-projets pour vraiment que la nature reprenne ses droits dans tous les quartiers. Il n'y a pas que dans le centre-ville, il y a les banlieues, la Bottière, le Chantenay, Dervalière, tout ça. Il y a des micro-actions qui sont menées dans toutes les équipes pour améliorer tout ça.
On ne peut pas se dire qu'on est trop tard parce que c'est un monde dans lequel on vit, donc c'est pas possible. Donc on a toujours plein de choses à faire, rien n'est joué. On a fait des grosses erreurs par le passé, on continuera d'en faire, c'est certain. Mais par ces actions, par la sensibilisation du public, par les oasis, par le plan pleine terre, toutes ces actions-là vont dans le sens de la résilience de la ville et surtout ne pas se résigner et continuer d'agir.
C'était Bienvenue dans les oasis de biodiversité de Nantes, un documentaire réalisé par Julie Ozou et proposé par Nantes Métropole. Avec les voix de Manuela Lefort, Abderrahman Amlaoui, Olivier Gann, Gaël De Giorgio, Yoni Guimier, Marilyn Laplace, Fabrice Bayouot, Jean-Marc Couillot, Michael Grant et Gérald Beaujou. Musique Love Waltz de Nikos Spilotis. Merci à toute l'équipe du service Nature et Jardin de la ville de Nantes, aux élèves de l'école Anatole de Monzy, à Jet FM et Cécile Préfol.